Je me pose beaucoup la question dans mes pratiques de classe des langues minorées socialement et notamment des langues que les élèves n'ont pas eu l'occasion et ne s'autorisent pas à écrire, ce qui est dans le cas des UPE 2A actuellement sur l'agglomération de Grenoble-Alpes, 90% de nos élèves. Et du coup, dans toutes ces... la place de la première langue de scolarisation et la place de la langue d'origine, qui est la langue encore parlée à la maison, et comment articuler les deux dans ces activités d'éveil aux langues, c'est pas forcément évident, parce que pour tout ce qui est oral, l'élève va avoir tendance à travailler sur sa langue familiale, alors que dès qu'on est dans le passage de l'écrit, il va pas s'autoriser à l'écrire, même en phonétique, et il va repartir sur la langue de scolarisation première. Voilà, et ça c'est vraiment une problématique qu'on a pour tous ces élèves plurilingues qui ont été déjà en situation d'élèves allophones dans leur pays d'origine.
Oui, ben c'est pas simple, faut surtout jamais forcer l'élève, hein. Puis il y a des langues où les parents, qui sont difficiles à écrire, parce que s'il n'a pas eu d'éducation du tout à l'écrit dans sa langue, ça peut même devenir franchement impossible. On peut pas tout faire. Donc l'accès à l'écrit dans les langues, dans certaines langues, peut être problématique. Après, dans EOL, on a tout transcrit quand la langue est présente. Il y a 70 langues dans EOL. Sur 6000, hein, je dis. Donc, une goutte d'eau dans l'océan. Hein. Mais pour celles qui figurent, il y a des choses écrites dans ces langues. Mais parfois, quand il existe un système d'écriture, on l'a écrit dans la langue en question. Mais on l'a aussi transcrit avec une sorte, des différents systèmes, plus ou moins phonétiques, mais pas. C'est une vraie question, l'accès à l'écrit. Mais, alors. On pourrait toujours faire mieux, là. Je pense que ça peut venir. Ça vient chez certains élèves. Il faut pas forcer. Et si ça vient, tant mieux. Et là, on peut essayer de faire quelque chose. Aller lui chercher le système des, s'il sait pas écrire du tout dans sa langue, lui apporter un abécédaire ou, on les trouve maintenant, hein, sur Internet, on trouve un peu tout. Mais pas forcer non plus.
Bon, moi, j'ai noté, dans tout ce que tu as dit, parce que. Moi j'étais contente que tu insistes à nouveau sur le fait que ce type de démarche ne devait pas s'adresser que aux enfants allophones ou que tu as souligné l'importance de la mise en œuvre de ce type de démarche auprès de tous les élèves et ça me semble important. Surtout par rapport à la thématique de cette formation. Hein. Et puis, tu as dit on ne peut plus miser sur la connivence en contexte plurilingue. Mmh. Mais il me semble que cet implicite ou cette connivence en contexte monolingue est aussi... néfaste ou est aussi joue un rôle aussi important dans la production des inégalités scolaires. Voilà, donc
ça rejoint effectivement la question de l'implicite, hein. Mais si on lit Chervel par exemple, vous connaissez je pense les écrits de Chervel sur l'histoire de l'orthographe et toutes ces choses, la crise de l'orthographe en particulier qui est un ouvrage absolument indispensable d'après moi, on voit bien qu'il y a finalement une petite période où une certaine connivence fonctionne. Mais tout le 19e siècle est un combat terrible avec des enseignants qui ne connaissent pas l'orthographe. Hein. Chervel le montre bien. Après, il a fallu scolariser vraiment les élèves au forceps, etc. Et puis, effectivement, il y a le sommet de l'orthographe. Vous savez que selon Daniel Manès et Chervel, c'est vers les années 40, vraisemblablement, qu'on atteint le sommet. Après, ça commence à redescendre. Probablement parce que là, on a atteint à la fois le consensus sur les objectifs et puis une certaine connivence. Donc, il y a une certaine clarté des objectifs qu'on peut critiquer ou pas. Hein, c'est pas le lieu ici. Mais on arrive à ça. Après, ça commence, et la migration augmente. Et ça réaugmente la divergence et maintenant on voit bien que cette connivence est de nouveau très éloignée.
Oui, et puis il y a la massification,
massification
du secondaire, la scolarisation de populations qui n'étaient pas auparavant.
Qui ne l'étaient pas auparavant.
Pas seulement des populations migrantes.
Oui, tout à fait. Et puis sur le premier point, tous les élèves, oui, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup. Il y a beaucoup à faire pour des élèves entre guillemets monolingues. Hein, mais pour moi, ça existe des élèves monolingues, c'est des élèves qui sentent monolingues, hein, quand même. Donc, moi je dis que la réalité, elle est faite des pratiques et des représentations. Hein. Donc, le monolinguisme existe, contrairement à, je ne sais plus, c'est Marinette qui disait ça, ou je ne suis pas sûr, je ne sais plus, qui disait, il n'y a pas de monolingue, ou c'est Cyril, je crois. Il n'y a pas de monolingue. Mais oui, il y a des monolingues, c'est ceux qui considèrent comme monolingue, qui se donnent aussi la légitimité du monolingue, du type, c'est moi qui fais la loi. Un peu, hein. Puisque je suis monolingue français, je sais. Hein. Donc, ça existe, le monolinguisme. Le bilingue parfait, non, mais le monolingue type, je dirais, pas idéal ou pas parfait, mais le monolingue type, il existe d'une certaine manière. Mais il faut l'éduquer, justement. Il faut l'ouvrir à la pluralité. L'ouvrir à comment accueillir un élève. Par exemple, faut le dire clairement, les francophones sont très mauvais là-dedans. C'est-à-dire que très rapidement, souvent quand ils communiquent dans l'exolingue, très vite ils corrigent leur très vite ils corrigent. Ils encouragent pas, ils corrigent. C'était une conférence qui était à cette conférence, je sais plus. Il y avait une Québécoise qui était là et qui racontait. Elle est venue. C'est Suzanne Chartrand. qui racontait que quand elle est venue en Europe la première fois, on a commencé à critiquer son français, parce qu'elle était québécoise, alors que quand elle est allée en Espagne, elle a commencé à parler espagnol et les gens me disaient, parce qu'elle avait appris l'espagnol, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu parles bien espagnol, etc. Elle encourageait tous. C'est extraordinaire. Nous, on exclut même à l'intra, parce que le Québécois, ça reste du français, son erreur. Et vous voyez, donc, là, il y a toute une éducation à faire importante.
Oui, je dis que ça commence à changer, parce que les inspecteurs de langue, maintenant, nous disent, quand ils viennent nous inspecter, qu'il ne faut plus corriger systématiquement les élèves. Oui. Voilà. Ce qui est important, c'est la production.
Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais les corriger, puis il y a des manières de corriger, hein, c'est important de le dire. Par rapport, justement, à quelqu'un qui le dirait dans une autre langue, parce qu'il n'arrive pas à le dire en français, à un moment, lui dire, oui, si on comprend. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre? Ou troisième possibilité, oui, c'est juste, essaye de le dire en français. Il y a des mouvements, il y a plusieurs manières de faire, enfin, il y a plusieurs mouvements, mais c'est sûr, il y a des manières très brutales de corriger, puis il y a d'autres manières beaucoup plus subtiles. On peut s'y reprendre, noter, puis dans une leçon ultérieure, revenir. Il y a plein de moyens. Mais j'irai plus loin même. Il faut éduquer les élèves francophones à faciliter l'accès à leur langue à d'autres. Si quelqu'un veut développer cette didactique exolingue comme approche plurielle, ça n'existe pas encore. Il y a des choses à faire. La didactique exolingue, formalisée, mise en œuvre, elle n'existe pas encore.
Ouais, je vais peut-être juste raconter justement une expérimentation qu'on a menée avec James Costa, qui irait un petit peu dans le sens d'une didactique exolingue, je crois. Donc, dans le cadre d'un projet qui s'appelait EBP ici, il y a un an à rallonge, enfin bref, c'était un projet du Conseil de l'Europe, c'est du CELV. On a travaillé avec James Costa et des enseignants de Languedoc, provençal, occitan, on peut l'appeler de diverses manières, sur le développement de compétences d'interaction plurilingue-exolingue, dans le cadre d'échanges interscolaires entre des élèves de collège en France, apprenant, ayant pour option le provençal occitan, et des élèves italiens d'une vallée du Piémont où l'occitan est une des langues encore pratiquées, même faiblement, mais en tout cas avec laquelle des élèves sont encore en contact dans leur vie quotidienne. Et donc, à l'occasion d'une rencontre, d'un voyage scolaire, l'enseignant français avait préparé avec les élèves un petit guide d'entretien pour faire connaissance, pour que les élèves français fassent connaissance avec leurs camarades italiens. Et ça a donné lieu. Donc, il a filmé ses rencontres, ses échanges entre élèves français et italiens. Il faisait le pari que peut-être que dans ces échanges, l'occitan serait aussi une des langues utilisées. Et donc en fait, dans les binômes qui ont interagi, il y a eu des cas de figure assez assez diversifiés. Hein. Il y a pas mal de binômes qui sont orientés vers une langue commune qui était le français, puisque les Italiens apprenaient le français en langue étrangère. D'autres ont recherché d'autres moyens de communiquer. Et puis certains binômes ont fait un peu feu de tout bois. Enfin, donc on avait différents types de situations concrètes, enfin d'actualisation de modalités de communication exolingue, qui étaient assez intéressantes à observer avec les élèves aussi a posteriori. Et pour analyser quelle stratégie communicative avait été mise en œuvre, et on a à partir de là essayé de didactiser ça. Et donc on a élaboré une activité scolaire hein, qui était fondée sur l'observation d'échanges exolingues dans des films de fiction. Donc on a utilisé le Cornio, un extrait où Bourville. Le personnage que joue Bourville va chez un garagiste napolitain, et donc il y a un échange entre les deux personnages qui permet d'analyser un certain nombre de phénomènes qui sont assez typiques de la communication exolingue. Et donc on s'est appuyé sur le CARAP pour fixer des objectifs à cette activité, pour essayer de d'aller vers une didactisation de ce type de contenu, quoi. Voilà.
Entre l'exolingue,
c'est juste pour
la compréhension.
Oui, alors
on est dans la même famille quand même.
Alors on était au départ dans un projet qui travaillait sur l'intercompréhension, donc l'approche qui se fonde sur les proximités formelles entre langues pour faciliter la compréhension dans une autre langue, approche qui a jusqu'à présent quand même plutôt porté sur l'écrit, jusqu'à une époque récente, parce que depuis quelques années, les didacticiens de l'intercompréhension travaillent aussi dans des dispositifs d'échange en ligne, chat, clavardage, enfin les... mais par contre, dans le domaine des interactions orales en face à face, il y a très très peu de travaux là-dessus. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, parce que en fait, le maintien d'une langue, parce que l'intercompréhension est fondée sur un mode de communication qui existe, hein, qui est celui qu'on a entendu hier avec l'extrait de Sakina. Chez elle avec sa mère, où chacune des deux parle une langue différente, mais en fait quand les interactants se rencontrent, très souvent il y a des phénomènes de convergence ou de